par Saint Jérôme. Saint Jérôme, il n'y a pas de Jérôme parmi vous. Alors après Saint Ambroise, on passe à la génération suivante, qui sera aussi la génération de Saint Augustin. Et parce que les dates de Saint Ambroise, à peu de choses près, sont celles de Saint Augustin, 347-420, vous voyez. Alors il est né en Illyrie. L'Illyrie, c'est une province de l'Empire d'Occident qui aujourd'hui s'appellerait la Slovénie ou la Croatie. À l'époque où il n'y avait pas de Slaves, donc. Et Stridon se situe dans la Slovénie actuelle.
Et on parle de
Jérôme. Donc Jérôme est un, voyez, vient de cette partie de l'Empire d'Occident qui est la plus à l'est, quasiment à la frontière de la partie orientale, mais quand même qui est bien de culture latine. Et donc il y avait des peuples qui étaient des Illyriens à l'époque, qui ont été recouverts par les Slaves venus de, enfin les Slaves du Sud, Slovènes, Croates, etc. Saint Jérôme. Les Illyriens. Ça s'appelait l'Illyrie.
La région de Split, de l'Afrique.
Voilà tout ça, de Zara, de tout ça.
Comme Dalmatie.
Voilà, la Dalmatie, on l'appelle aussi la Dalmatie. Et il naît dans une famille de propriétaires fonciers aisés. C'est pour la fois d'après. Oui, exactement. La dalmatique, c'était un habit, c'était une sorte d'habit que portaient les dalmates, donc une sorte de tunique qui se nouait par une ficelle, enfin un nœud. Et qui était assez ouverte. Et il se trouve que c'était pas mal d'esclaves affranchis qui venaient de Dalmatie, donc qui étaient finalement les esclaves affranchis, c'était des hauts fonctionnaires la plupart du temps. Et c'est devenu une tenue de cour dans la mesure où c'était la tenue traditionnelle de gens qui sont devenus des hauts fonctionnaires de l'Empire. Et ça a pris une certaine aura. Et résultat, quand l'Église a imité les habits civils, les habits de cour, elle a utilisé la dalmatique pour ses diacres. Pourquoi ? Parce que les diacres sont serviteurs et ses fonctionnaires étaient des serviteurs de l'empereur. Donc, vous voyez, c'était des diaconoi au sens étymologique du terme. Donc, la dalmatique, ça vient effectivement de l'habit que portaient les dalmates, dont un certain nombre étaient devenus des hauts fonctionnaires de l'Empire. Voilà. Donc lui, il est né dans une famille de propriétaires fonciers aisés, et du coup, il va pouvoir faire ses études à l'étranger, en Erasmus, si j'ose dire. Il va faire ses études tout simplement dans la capitale, à Rome. Donc il se rend à Rome en 360, et là, il va y rencontrer Rufin, donc le fameux Rufin d'Aquilée. Mais Aquilée, c'est pas très loin, c'est un tout petit peu, ils sont presque des pays, si j'ose dire. L'Istrie, c'est l'Istrie, la Vénétie julienne. Et donc, ils vont se lier d'amitié jusqu'à leur brouille au sujet de la controverse origénienne. Puisque Rufin va être un enthousiaste d'Origène. Ensuite, Jérôme va le traduire de manière à faire passer Origène sans ce qui ne passerait pas. Et du coup, avec Rufin, ils vont se prendre le bec. Alors, il a pour maître Dona, qui est un grand grammairien latin. Et Jérôme en profite pour fréquenter les milieux monastiques de Rome. Et là, il y reçoit le baptême. Il reçoit le baptême en 367-368, par là. Donc, vous voyez, à près de 30 ans, mais finalement, comme Augustin, Et comme beaucoup de ces gens qui étaient inscrits au catéchuménat dès leur jeunesse, qui ne faisaient rien, et qui, à un moment donné, le faisaient sérieusement, mais qui différaient parce que à l'époque, précisément, être chrétien, c'était véritablement très exigeant. Et donc on réfléchissait, même dans l'Empire devenu chrétien, à le devenir, effectivement sacramentellement. Et donc il reçoit le baptême. Et à la différence de Ruffin, qui retourne à Aquilée pour fonder une communauté, certains d'entre vous, d'entre nous, ont visité la grande basilique d'Aquilée. Une mosaïque splendide. Où il va fonder une communauté. Lui, Jérôme, se met au service de l'État. Vous voyez, c'est un dalmate qui va porter la dalmatique, puisque il devient haut fonctionnaire, enfin moyen fonctionnaire, à Trèves, dans la partie nord de l'Empire d'Occident, où réside l'empereur. Vous savez que Martin se retrouvera aussi à Trèves à un moment, lui étant dans l'armée. Mais là, finalement, en quelques années plus tard, pas tellement plus de temps après, il va quitter. Donc, il a été baptisé, vous voyez, à 20 ans, et vers 24-25 ans, il quitte le service public pour rejoindre Ruffin et y mener une vie. Une vie monastique, mais une vie monastique de lettré, c'est-à-dire en fait qui est simplement le prolongement en chrétien de ce que faisaient les sages grecs, autrement dit une vie d'oisiveté réglée par les études. Hein, c'est le fameux otium qui est ce désintérêt des choses profanes qu'on laisse à d'autres, hein, à notre service, pour pouvoir vaquer à la contemplation, à l'étude, etc. Un peu comme le contemporain d'Augustin, un petit peu plus tardif, qui a été ministre de Théodoric, et qui ensuite, au bout de plusieurs décennies de service, a quitté la fonction publique pour fonder un monastère d'études, justement, à Vivarium. Comment s'appelait-il Ah, mais si, attendez, comment il s'appelle Enfin, j'ai oublié, ça reviendra. Lui, il reste moins longtemps au service de l'État, vous voyez, quelques années simplement, et donc il en 370, par là, il se met à vivre de cette vie un peu contemplative. Mais l'année suivante, finalement, il se dit qu'il faut faire un voyage d'études, un stage là où il y a des vrais moines. Donc il part, il fait son voyage d'Orient, comme Saint Jean Cassien et d'autres encore. Donc il part en Syrie et il part en Syrie, se retire en ermite dans le désert Chalcis. C'est là où on représente Jérôme avec. Comment on représente Jérôme ? Allez. Alors, il a un crâne. Un lion. Quoi encore ? Un chapeau de cardinal.
Et puis il se tape avec des cailloux.
Et puis il a un crâne aussi. Et puis une croix. Voilà, c'est ça. Alors donc on le représente comme ça parce que comme il a été aussi serviteur du pape Damase, il était. Il a repris sa dalmatique pour servir le roi du ciel désormais et son vicaire. Il est représenté comme cardinal, alors que les cardinaux n'existaient pas encore, mais on le met dans cette tenue. Cassiodore, oui, voilà, c'est ça. Ah là là, on a toujours besoin d'un atexis. Ou... et, Et alors, c'est bien Cassiodore, oui, c'est ça, oui. Qui était plus ou moins contemporain de Boès aussi, etc. Et donc, il va se démolir un peu la santé. C'est pour ça qu'on le représente très âgé. En fait, il n'était pas âgé à ce moment-là. Mais de fait, il s'est un peu démoli la santé. Parce que vous vous souvenez que les moines de Syrie, ils rivalisent de prouesses ascétiques. Alors, les petits occidentaux... de bonnes familles qui se risquent à ça, bon, bah, il s'use assez vite. Alors donc, du coup, au bout d'un an, il quitte son désert, son ermitage, et il retourne à Antioche, qui est la capitale de la Syrie, une des plus grandes villes de l'Empire. Et puis là, il va étudier le grec et l'hébreu, ainsi que la Bible, à l'école d'Apollinaire de Laodicée, qui est un des pères de la, un des représentants de l'école d'Antioche. Et là, il se convertit, sa conversion à l'écriture s'est faite à l'occasion d'une profonde crise intérieure. C'est quand même intéressant parce qu'on commence à avoir un petit peu grâce au père, on a un petit peu l'expression de leur intériorité, hein, souvenez-vous. De Saint Justin qui raconte sa conversion, eh bien en fait aussi Jérôme, Jérôme se voit en songe devant le tribunal de Dieu, et il dit, il paraît devant le Christ et dit: je suis chrétien. De fait, il avait été baptisé. Non, tu es un cicéronien. Où est ton trésor? Là aussi est ton cœur. Et en fait, c'est la réponse du Christ: tu es cicéronien. Parce qu'en fait, il aimait plus les belles lettres. Enfin, disons, il aimait bien. Enfin, disons, il n'avait pas du tout coupé avec ses passions antérieures. Donc, non, tu es un cicéronien. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Alors, il finit par se dire qu'il faut qu'il passe à l'écriture. Alors, comme pour toujours, quand Augustin fera la même expérience, l'écriture, elle est écrite dans une langue sémitique, qui est un système de pensée différent que les systèmes indo-européens, qui est en plus faite par un peuple qui n'a peut-être pas toute la culture brillante des Grecs, et en plus traduit dans un grec de docker, comme dira Augustin, et un latin de débardeur. Vous pensez que dans la traduction, dans les traductions, les vieilles traductions latines, il n'y a pas une seule proposition infinitive en latin. Donc, alors qu'on apprend ça, nous, dès le premier mois de nos études de latin, enfin peut-être le deuxième, enfin après les déclinaisons. C'était une langue très, très vulgaire, très pauvre. En plus, qui traduisait une langue très rugueuse, très imagée, pas très conceptuelle. Et donc, pour des latins cultivés, il y avait vraiment un choc culturel. Et donc, ils avaient un peu de mal à abandonner les belles lettres, qui étaient quand même le sommet des études, hein, dans l'Antiquité. Alors, finalement... Jérôme décide d'étudier sérieusement l'écriture sainte. Mais il le fait aussi dans l'ambiance syriaque, dans l'ambiance d'une Syrie qui est aussi marquée par Origène, puisque vous savez qu'Origène avait dû quitter Alexandrie, et en fait il avait été accueilli par toute une bande d'amis évêques qui le faisaient parler, prêcher dans leurs évêchés, dans leur cathédrale. Et du coup, il commence aussi à traduire Origène. Alors là, il est plus content parce qu'Origène, c'est la Bible, mais en fait, c'est aussi du grec correct. Et alors, finalement, il accepte d'être ordonné prêtre en 379, à condition de pouvoir continuer à mener la vie monastique. Ça sera un peu comme Augustin. Et là, il rencontre, lors d'un voyage à Constantinople, la triade cappadocienne, donc Basile et les deux Grégoire. Et il va être conforté dans ses opinions nicéennes, autrement dit dans l'orthodoxie christologique et trinitaire. Et il va traduire aussi la chronique d'Eusèbe de Césarée, traduite en latin. Donc voilà, le travail de donc Jérôme est intéressé par la vie contemplative, par la vie monastique, il s'y essaie. Il est intéressé par l'écriture sainte et aussi par les grands penseurs de l'Orient chrétien qui va essayer de faire connaître en Occident par des traductions latines. En 382, donc quelques années après, il se rend à Rome avec le fameux entomologiste des hérésies Épiphane de Salamine, hein, celui qui collectionne les hérésies, enfin qui les repère. Et là, il va fréquenter les milieux monastiques féminins de Rome, notamment sur l'Aventin, où ces dames de bonne famille avaient transformé leur demeure en monastère. Et là, il se fait des ennemis. Comme dit un patrologue danois, Hagendal, il dit « Jérôme était un satiriste né. En son siècle passionné de querelles, il n'a pas son pareil en vivacité d'esprit, en observation perspicace et en habileté littéraire, mais aussi en acrimonie et en méchanceté. » Donc il rate pas ses cibles. Et du coup, les cibles réagissent aussi. Donc il est très virulent, mais en même temps, c'était certainement un sentimental, il est aussi très vulnérable à la critique. Alors finalement, il s'embarque avec ses amis de l'Aventin pour la Palestine en 385, où Paola et lui vont fonder chacun, avec les sous de Paola, un monastère à Jérusalem, un monastère à Bethléem, pardon, en 386, donc un monastère féminin, un monastère masculin. Et dans le christianisme, hein, on sait que les apôtres vivaient des largesses des dames qui accompagnaient leur groupe, hein, selon l'évangile.
Et,
et alors il devient l'apôtre du monachisme. Alors d'un monachisme plus réglé, plus cénobitique, hein, qui n'est pas érémitique. Et c'est lui qui aura cette belle formule « suivre nu le Christ nu ». Donc l'imitation de... du Christ dans son abaissement. Et pour lui, le monachisme, c'est une militia, au sens latin du terme, c'est-à-dire un service militaire à vie, que d'ailleurs les occupants de sa patrie ultérieure mèneront aussi face aux Turcs, puisque en fait, finalement, les Croates étaient dispensés d'impôts, à condition d'être continuellement sous les armes pour défendre l'Empire, les marches de l'Empire contre les Turcs, donc les Grenzers, là, les gens des frontières. Et donc ils étaient véritablement, c'était une militia. Donc c'est un entraînement pour combattre victorieusement les passions. Voilà le but de la vie monastique. Alors... Jérôme, qui fréquente donc des milieux monastiques depuis longtemps, sera très, qui est marqué par le platonisme d'Origène, va beaucoup souligner l'importance de la virginité dans la vie chrétienne. Et par exemple, il aura cette phrase un peu forte: « Je loue les noces parce qu'elles m'engendrent des vierges, des épines, je cueille les roses. » C'est pas mal, hein. Voilà. Et comme Cassien, donc Cassien qui avait fait aussi ses stages en Orient, en Égypte, etc., c'est un adepte de la mesure. Hein. Ça sera toujours la ligne occidentale, la ligne du monachisme occidental, c'est quand même la mesure. Hein. Et pas la recherche de l'ascèse pour l'ascèse, mais l'ascèse pour dégager l'esprit, pour la contemplation. Et pour lui, la contemplation, pour être chrétienne, doit se nourrir de l'écriture. Par exemple, il dit cette phrase: « Tu pries, tu parles... » voilà. tu parles à l'époux, donc tu pries, tu parles à l'époux, tu lis, c'est lui qui te parle. Vous voyez, notre prière, c'est, elle s'adresse au Christ comme époux, et quand on lit l'Écriture, en fait, c'est lui qui nous parle. Donc c'est comme une sorte de dialogue sponsal, nuptial, mais vous voyez, qui suppose comme médiation l'Écriture sainte. Et pour lui, pour Jérôme, la profession monastique est comme un second baptême. D'ailleurs, dans la tradition monastique, on change de nom, on reçoit un autre nom au moment du... qui signifie bien une vie nouvelle. Hein. On dépose les habits du siècle, le vieil homme, pour revêtir l'homme nouveau. En fait, la vie monastique, c'est une sorte de seconde naissance spirituelle. Alors, vous voyez, dans l'Antiquité, on a d'abord sa naissance normale. Ensuite, on est frotté au christianisme. Souvent, on est quand même baptisé à l'âge adulte. Vous voyez, Jérôme a 20 ans, Auguste... Ben, Jérôme, il n'a pas trop cherché. Hein, il était chrétien culturel, on peut dire. Il a attendu ses 20 ans pour être baptisé. Augustin, il cherchera davantage. On prend au sérieux le baptême comme une sorte de nouvelle naissance. Et puis, pour un certain nombre de ces chrétiens, de ces jeunes chrétiens, immédiatement, c'est la vie retirée, la vie contemplative qui les appelle. Et là, ils vivent leur vie monastique comme encore un nouveau baptême. C'est une sorte de nouveau baptême. Et cette période à Bethléem va être l'époque d'une intense activité littéraire. Il va se livrer à un commentaire du Corpus Paulinien. Puis, s'avisant des incertitudes des traductions grecques dans l'Ancien Testament, vous savez qu'il y en avait pas mal, hein, Origène, avec ses exemples, avait listé au moins 4 traductions grecques, va entreprendre de traduire en latin pas simplement le grec, mais l'original hébreu.